Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là. Soyez bénis, au nom de Jésus, soyez bénis. Romains 6, verset 2, « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous pour le péché ?» Voilà une question de Paul. Alors, je vous relate la conversation d'un enfant de 11 ans avec une fille de 10 ans et demi. Je vous relate cette conversation. Un enfant de 11 ans converti, qui me semble né de nouveau, qui demande le baptême, et qui discute avec une de ses copines dans la prairie, là, de l'école, et il lui dit, il lui demande, « Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu es converti? »« Bah, je ne sais pas trop. »« Mais quoi ?»« Ben, pour moi, répond la fille, la plus belle journée de la semaine, c'est quand je viens à l'église le dimanche, au culte, et que je reçois des enseignements de Véronique, de Bénédicte ou de Noémie. » Ah, c'est ta plus belle journée, oui. Alors, ce garçon lui demande la question, est-ce que tu as été transpercé par Jésus-Christ, par sa parole, ou est-ce que tu as été touché? La fille lui dit, lui répond, ben, j'ai été touché. Est-ce que tu as été transpercé? Ben, pas encore. Alors, le garçon lui dit, est-ce que tu veux qu'on prie ensemble pour que Jésus-Christ soit complètement dans ta vie et que ton péché soit transpercé par la croix de Jésus? Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la préadolescente dit, « Oui, je veux bien que tu pries avec moi. » Et donc, dans la prairie, j'ai su cet événement après, dans la prairie, ce garçon de 11 ans a prié avec son ami, qui a un an de moins, et pour qu'elle donne sa vie à Jésus, qu'elle soit transpercée. Je reprends donc Romains, chapitre 6, « Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Donc, Paul ne parle pas du baptême de l'eau, il parle du baptême dans la mort de Jésus. Donc, quand Jésus a été transpercé par ses clous, par les clous, dans les pieds et dans les mains, c'était notre péché qui a été crucifié. C'est notre péché qui est condamné. Et donc, il est effectif, il est normal que ce garçon ait demandé à sa copine, « Es-tu transpercé ? Ou as-tu été touché ?» Alors, je vous pose la question, chers amis, parce que nous avons l'habitude de dire « Nous croyons en Jésus-Christ. » « Oui, j'ai été touché, etc., j'ai donné ma vie à Jésus. » Est-ce que nous avons été transpercés ? Est-ce que réellement, la parole de Dieu a tué quelque chose en moi? L'événement de Jésus à la croix et sa résurrection ont-ils vraiment tué quelque chose? Ont-ils mis à mort l'être mauvais qui est le mien, l'être mauvais reçu via mes parents, via les ancêtres depuis Adam et Ève? Est-ce que ma nature mauvaise a été condamnée à la croix? Est-ce que je perçois cette crucifixion, cette chose qui me transperce, qui est la puissance de Dieu, de la croix, en moi? Est-ce que je la perçois? Est-ce que j'ai fait l'expérience d'être transpercé? Parce que j'ai fait l'expérience d'être complètement, si vous voulez, bouleversé par la force de Dieu, par la puissance divine de Dieu, dans mon être profond. Il est clair, chers amis, que souvent, oui, beaucoup ont été touchés par l'Évangile, et beaucoup ont confessé Jésus et ont été baptisés dans l'eau, et n'ont pas été transpercés. Je prends Hébreux, chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pourquoi ? Pour combattre le péché des autres ? Pour combattre les incroyants ? Attendez toujours, c'est pas ça. La parole de Dieu, Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, donc vivante, c'est une personne, c'est Christ, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, donc plus puissante, plus efficace qu'une épée d'un soldat romain de l'époque, dans le combat, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Quand l'épée d'un soldat romain rentrait dans le ventre, dans la poitrine de quelqu'un, elle faisait des dégâts considérables. N'est-ce pas? Mais ici, cette épée, Jésus-Christ, c'est partager âme et esprit. C'est-à-dire, je vais reparler de l'esprit après. L'âme vivante que nous avons reçue de Dieu et qui ne périra jamais a besoin d'être débarrassée d'un esprit qui l'a perverti, qui l'a conduit dans de mauvaises voies. Et nous allons parler de cela après. La transformation de mon esprit est nécessaire pour que mon âme ne s'égare plus. Donc, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Et pensez donc, bien sûr, les vertèbres de chacun, dans lesquelles il y a entre chaque vertèbre du cartilage, et au milieu de la vertèbre, il y a de la moelle. C'est comme si cette épée vivante, Jésus-Christ, rentrait jusque dans mes vertèbres, dans mes os, et me faisait sentir sa présence transformante et bouleversante. Et cette épée juge les sentiments et les pensées du cœur. Il y a donc, oui, comme disait ce garçon à sa copine, à son ami d'école, chez nous ici, il y a donc une épée qui transperce les sentiments et les pensées du cœur. As-tu été transpercé? Verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, devant donc le Christ, devant la parole vivante, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Donc, il y a clairement une affirmation fondamentale, c'est que nous ne pouvons pas échapper à cette opération chirurgicale extrêmement profonde de l'âme et de l'esprit. Or, il se peut que dans l'empressement sentimental, dans des périodes d'inconfort moral et spirituel, dans des campagnes d'évangélisation vite fait bien menées, dans des enseignements bibliques suffisamment non fondés, insuffisamment éclairants, il se peut que des personnes aient jugé que leur conversion était valide, et leurs pasteurs et leurs anciens aussi, parce que tout simplement, elles avaient de très bons sentiments, elles avaient de très bonnes raisons de devenir chrétiennes, elles avaient une grande conviction. Mais la conviction vient après. Il faut d'abord être transformé, transpercé, crucifié. Et fondamentalement, c'est des choses qu'on a mis de côté, je ne sais pas, par complaisance humaine ou parce qu'il y a eu des modes depuis 50 ans. Moi, je me rends compte que l'évangile des premiers siècles, c'est vraiment pas de la blague. Et c'est quelque chose de très puissant, très puissant. Galates, chapitre 5, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. On va voir que la liberté, c'est quand l'esprit humain est renouvelé et dirigé par le Saint-Esprit pour conduire l'âme et le corps à sa destination finale, à la cité céleste, et surtout déjà tout de suite à la communion spirituelle dans l'esprit avec Christ. Vous avez été appelé à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, donc l'humain. Rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Au verset 16, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Quand on dit désir de la chair, c'est désir de l'humain. Et dans l'humain, il y a le corps et l'esprit. Le psyché. Mais il y a l'âme. La nefesh, l'âme vivante, profonde, qui ne disparaîtra jamais. Et qui doit, un jour après le décès, rejoindre un corps ressuscité. Et qui doit être dans un corps béni, transformé par la puissance de Christ. Semblable au corps de Christ. Et l'âme doit être habité de la gloire de Christ aussi. Alors je continue, Galates 5, 16, marchez selon l'Esprit Saint, vous n'accomplirez pas les désirs de l'humain, car l'humain a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit Saint en a de contraires à ceux de la chair, donc de l'Esprit humain. Ils sont, et deux de désirs du corps. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alors, chers amis, quand je regarde Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Bon, ça pouvait concerner bien sûr le retour à la loi judaïque, la loi de Moïse, etc., et au rite, etc., la sacrificature, les prêtres, les prières par les prêtres, etc. Ce qui ne faisait pas partie de la doctrine de Christ, en fait. Quand nous prenons Romains chapitre 6, il est dit ceci au verset 2, « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Donc Jésus-Christ, dans sa mort, il y a quelque chose qui s'est passé. Dans sa mort à la croix, il y a quelque chose fondamentalement de différent de la mort d'un homme habituel. Alors, nous allons prendre Marc chapitre 10. Il est à la fois humain, notre cher Jésus-Christ de Nazareth, en qui nous croyons, mais il est à la fois Dieu. Jésus dit à Jacques et Jean, qui voudraient une promotion hein, dans le royaume de Christ, être premier ministre, hein. Eh bien, comme en politique, quoi. Ils étaient conduits par la chair, par un esprit de chair, un esprit humain. Eh bien, il disait au verset 37, Marc 10, 37, « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Et vas-y, Nénès, c'est toujours la même chose. Mais regardez bien les princes évêques, les papes, etc., et tous les rois, Louis XIV et tous les autres, et les tsars de Russie. Et, bon, on a compris la grande comédie humaine est destinée à disparaître. Ça sera fini un jour. Mais en attendant, Jésus ne marche pas là-dedans. Verset 38. « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Ça veut dire « Moi, je ne suis pas d'accord. Vous n'aurez pas ça. » Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, c'est-à-dire subir la colère du Père sur le péché du monde? C'est ça. Ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Donc Jésus dit qu'il faut, il va être baptisé. C'est au futur. Donc c'est pas le baptême de Jean-Baptiste. C'est pas le baptême de Jean-Baptiste. Pas du tout. C'est un autre baptême. C'est le baptême de la croix. Et je pense que dans Luc 12, il y a encore le même verset. C'est un long chapitre, j'essaye de le trouver tout de suite. Je ne trouverai pas peut-être, mais c'est dans Luc, évidemment. Et dans Luc aussi, la même parole est donnée pour les disciples, pour qu'ils sachent que Christ va passer par un baptême. Ce n'est donc pas seulement Marc. Marc est le porte-parole de l'apôtre Pierre, mais c'est aussi Luc qui est déformé par Pierre. Donc c'est une confirmation. Je n'ai pas la référence comme ça, je ne la retrouve pas, mais toujours est-il que dans Luc, chapitre 11 ou 12, il y a la même affirmation que dans Marc, chapitre 10. Pouvez-vous être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Alors, ils n'ont rien compris, ils disent oui. Après Jésus dit, oui, vous serez baptisé du baptême dont j'ai été baptisé. Ça veut dire, vous allez être complètement transpercé, crucifié, en votre vieille nature. Vous allez absolument être dépouillé de votre vieille nature. Vous allez être transformé au-delà de ce que vous pensez. Ça ne sera pas par vos sentiments, par vos émotions, ça sera par la puissance divine. La puissance divine est capable de briser le péché en moi, mais pas ma bonne volonté. Alors, je vais continuer la méditation de Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Donc le baptême en sa mort, ce n'est pas le baptême d'eau. Le baptême en sa mort, c'est simplement qu'au moment où Jésus est mort à la croix, il savait que moi, un jour sur la terre, j'allais naître et que je me convertirai, j'accepterai son sacrifice à la croix. Et j'accepterai sa personne comme Seigneur et Sauveur. J'accepterai d'être transpercé. Et si vous n'avez pas accepté d'être transpercé, c'est-à-dire que votre péché règne toujours, vous n'êtes pas sauvé. Même si vous vous dites chrétien, vous avez été baptisé. Il faut faire attention. Alors, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, ça veut dire clairement, il y a eu une mort et un enterrement. Donc, il y a un passé qui est enterré, et il y a un moi-je, avec son orgueil, sa vanité, ses tricheries, ses fraudes, etc., qui est condamné et mort, crucifié. Et nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, en puissance du Saint-Esprit, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, comme si on était greffé sur lui, et c'est la réalité, si réellement nous sommes convertis, à ce moment-là, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alors, chers amis, je voudrais bien que vous sachiez ceci. La conformité à sa mort, c'est-à-dire je dois être conforme à la crucifixion. Je dois être conforme, il y a une mort en moi que je dois consentir. Si le péché règne en moi, je n'ai pas accepté cette conformité en la mort de Christ. Et comment puis-je être conforme à sa résurrection, c'est-à-dire avoir reçu la puissance de vie nouvelle et le Saint-Esprit, si d'abord je n'ai pas été dépouillé du vieil être, du vieil humain? Il faut bien faire attention, prier, méditer la parole de Dieu, essayez, s'il vous plaît, de voir où vous en êtes, avant que Jésus ne soit là, avant qu'il soit revenu. Alors, au verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, c'est-à-dire l'être humain soit réduit à l'impuissance. Il faut savoir qu'en vous, quelque chose est devenu impuissance. L'orgueil, la vanité, le vol, le mensonge, la combine, Et je vais ajouter des tas d'autres choses. Je vais expliquer des choses. Car celui qui est mort est libre du péché, verset 7. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez-vous, donc, il y a réellement un examen de conscience à avoir en toute honnêteté, en toute droiture envers Dieu, et il faut comprendre la parole de Dieu. Il faut la comprendre au sens exact. Nous ne sommes pas dans un langage sensible de sentiments, nous sommes dans un langage d'autorité divine sur nous. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc voilà une conclusion. Vous pouvez le savoir. Si vous avez absolument pris une décision, une résolution, le péché n'est plus votre roi dans votre corps mortel, dans le vieux corps. Le péché n'est plus là. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ben oui, les désirs de un tas de choses. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, des instruments d'obéissance, de sainteté et de service, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non plus sous la loi de Moïse, mais sous la grâce, sous la puissance du ressuscité. Alors, je reviens à Galates chapitre 5 et je vais faire un commentaire. Je ne serai peut-être pas aussi long aujourd'hui parce que je dois parler avec notre ami Saïd au Pakistan. Il a beaucoup de soucis au niveau de nourriture des enfants, etc. Bon, c'est un tracas pour moi aussi. Beaucoup de soucis pour son mariage, c'est pas facile. Je me mets à sa place, et pourtant j'ai pas toujours. Alors, dans Galates chapitre 5, je vous dis ceci. Verset 17, la chair, donc la vieille nature humaine, conduite par ce qu'elle vient des parents, des grands-parents, de tout, et a des désirs contraires à ceux de l'Esprit Saint, donc de Dieu. Et l'Esprit Saint, donc Dieu, en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous fassiez point ce que vous voudriez. Donc, on est incapable de faire ce qu'on désire. On est incapable de mener une vie chrétienne si on n'est pas conduit par l'Esprit Saint. Il faut vraiment être baptisé du Saint-Esprit, il faut vraiment être crucifié en Christ, sinon, ben ça patauge. Et c'est une vie chrétienne complètement qui boite et qui n'est pas en ordre. Il faut donc, je vous en prie, vous aller dans des enseignements précis sur la doctrine du salut. Il faut avoir réellement des relations avec un pasteur qui aime la Bible, qui la met en pratique, qui veut absolument que vous compreniez le sens exact du salut et de la vie chrétienne. Et Dieu a donné des ouvriers pour vous aider. Si vous vivez en marge des ouvriers de Dieu, comment voulez-vous tout sucer de votre pouce? C'est impossible. Moi-même, je lis, je réfléchis, j'étudie, je me lève tôt, je vais dormir tard. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de moi que doivent venir toutes les paroles que je vous donne. Pas de moi. C'est de Dieu que ça doit venir. Alors, Galates chapitre 5, n'est-ce pas? Verset 19. Les œuvres de la chair, c'est-à-dire de l'être humain, même qui se dit chrétien, s'il n'est pas réellement crucifié, transpercé, sont évidentes. La débauche, donc c'est azelia, dérèglement, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors, les choses semblables, je voudrais vous dire quand même ce que je pense de ça. Paul n'a pas pu faire un texte de 25 pages sur ce sujet-là, mais il a certainement expliqué cela en long et en large quand il était en face des chrétiens. Quand quelqu'un est une demi-heure tous les jours sur des jeux Internet, ou 2 heures, ou 3 heures, ou 4 heures, toutes les heures qui lui restent où il n'est pas devant l'Internet, toujours dans sa conscience, dans son esprit, il est toujours en train de penser au jeu, il est toujours en train de penser à ce qu'il va jouer. Il est toujours capté par cette demi-heure ou ces 4 heures d'Internet, de jeu sur Internet. Il est toujours capté par ça. Il est esclave. Parce qu'il livre son esprit à une addiction que Dieu n'a pas voulu. Il livre son esprit, il livre sa pensée intérieure à cet objet qu'on appelle l'ordinateur et à ces jeux qui sont créés par des gens intelligents pour voler les âmes. Enfin, ils n'y arriveront pas parce qu'elles appartiennent à Dieu. Donc, ils volent les esprits. Et les esprits qui sont volés ne conduisent mal leurs âmes. Ils ne savent pas bien vivre dans la volonté de Dieu. C'est extrêmement important de comprendre que l'addiction à l'ordinateur, au téléphone portable, à tous ces jeux-là, amène un lien très puissant sur l'esprit. Êtes-vous transpercé par Christ? Si vous l'êtes, vous devez renoncer. Si vous l'êtes, vous avez déjà renoncé. Si vous l'êtes, vous savez que vous risquez profondément de ne plus avoir aucune liberté, d'être captif de ces jeux, de cet engin, de ce téléphone, et que vous n'êtes plus dans votre esprit disponible pour que le Saint-Esprit vous parle. Vous arriverez au culte, et vous allez pendant une heure et demie, une heure quart être au culte, et vous aurez profité de la parole de Dieu pendant un quart d'heure, 20 minutes. 5 minutes, et tout le reste vous serez autre part, parce que votre esprit n'est pas disponible à l'Esprit Saint. Maintenant, je prends un autre exemple. Tout se passe beaucoup au niveau de l'esprit. Toutes les choses semblables dont Paul parle dans Galates chapitre 5, verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. On peut se croire sauvé et se comporter anormalement et démontrer à Satan qu'on est son serviteur. On peut démontrer de façon pratique à l'ennemi de Dieu que de toute façon on n'obéit pas à Dieu. Et l'ennemi de Dieu se frotte les mains. Parce que tiens, en voilà encore un qui n'est pas libre. Alors, il est clair que dans Jean, Jésus a dit que celui qui croit en moi est affranchi du péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Au départ, l'image la plus simple, c'était l'archer qui tire une flèche et qui rate son but. Qui rate son but, il rate sa cible. Alors, il faut faire attention, mes amis, nous pouvons nous croire chrétiens et ne pas être libres. Jean 8, verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, mes enseignés. Si vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » La vérité vous affranchira. Donc, c'est Christ, la vérité. Donc, si Christ a toute la place en moi, il me rend libre. Mais si je garde des addictions, si je garde des liens avec des choses qui ne sont pas de Dieu, je ne suis pas dans la liberté. Et où est la place de Christ? Il est à 10e place, 3e place. Il est au placard. on se rattrape un peu en allant en culte ou en regardant un message sur Internet, que ce soit le mien ou un autre, on lit un peu la Bible, mais on n'a pas la liberté que Dieu veut, la liberté totale, plénière de l'Esprit Saint. Or, Dieu veut le meilleur pour chacun de vous et de moi. Alors, je vais prendre un autre exemple. Mon grand-père faisait de la radiesthésie et il est mort malheureux. Il y a eu beaucoup de misère dans ses enfants, donc dans la vie de ma mère aussi, à cause de ça. Ensuite, mon père a appris, au contact de mon grand-père maternel, la radiesthésie. Mais mon père a quitté à un moment donné. Il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais il n'a jamais dit pourquoi. Et mon père, après, a fait Alzheimer, et il a été sous le joug de la radiesthésie. Dans le dictionnaire de l'occultisme de la Rose-Croix, la radiesthésie, c'est la première étape de l'occulte, de la divination. J'ai pratiqué la radiesthésie, au point qu'à un moment donné, je ramassais un autre don, c'est de voir les lignes des mains et de pouvoir dire le passé, le présent et le futur. Mais en échange, j'avais un désir extrêmement fou et malsain d'impureté. Tout cela m'a fait prendre conscience qu'il fallait rompre absolument avec la radiesthésie. Rompre totalement, pas un peu. Tout couper. Aujourd'hui, si je n'étais pas devenu pasteur, je serais sans doute médium et des tas de gens viendraient pour des guérisons, viendraient pour des toutes sortes de choses, des potions magiques, enfin, peu importe. Pour les œuvres du diable. Même si apparemment elles feraient du bien, je serais un serviteur qui, par les fonctions de Satan, lirait les consciences des gens vers Satan, pas vers Dieu. Je suis donc passé par le petit trou de la souris, comme on peut dire, c'est Dieu qui m'a sauvé de ce piège reçu de mon grand-père et de mon père. Ce qui m'a laissé croire que c'était bon, c'est que des prêtres faisaient des livres sur la radiesthésie. Des prêtres. Et donc, imaginez à quel point c'est une caution quand un homme qui se dit serviteur de Dieu cautionne des choses pareilles. Je les désapprouve complètement, afin que vous sachiez qu'il ne faut pas garder des liens avec la radiesthésie, avec l'hypnose, avec le dialogue avec les morts, avec les voyants, avec tous ceux qui lisent les mains, qui prédisent l'avenir, qui font l'horoscope, etc. Il faut rompre absolument. Pourquoi ? Même si vous croyez en Jésus-Christ, que vous l'aimez, que vous lisez la parole, que vous allez dans l'église, vous êtes incapable d'être libre. Continuellement, l'ennemi vient parler à votre esprit durant les nuits, durant les jours. Il capte vos pensées, il dirige vos pensées et il vous écarte de la pleine liberté, de la plénitude du Saint-Esprit. Il vous écarte de l'œuvre magnifique, divine, sacrée du Saint-Esprit. Et oui, vous avez foncé tête baissée dans la vie chrétienne, sans savoir qu'il fallait être crucifié en Christ, sans savoir qu'il faut donner toute sa vie. C'est pour cela que Jésus a dit, « Celui qui me donne sa vie, la sauvera. Celui qui la conservera pour lui-même, la perdra. » Alors, il y a un dilemme profond. Il y a une coupure radicale. Non, je vous ai parlé de la radiesthésie, mais imaginons quelqu'un qui aime l'argent. Il est chrétien, mais il joue de temps en temps à la loterie ou tombola et puis il gagne 1 million d'euros. J'ai connu un couple comme ça. Ils étaient généreux, ils étaient au service de leur église, d'autres églises. Et finalement, à leur mort, ils avaient joué, ils avaient gagné 1 million d'euros. Et à leur mort, ils avaient tellement peur de ce 1 million d'euros qu'ils n'y touchaient pas. Ils savaient qu'il leur brûlait entre les mains, qu'ils étaient en rupture avec Dieu. Il est resté sur les comptes, et c'est l'État belge qui les a mangés, qui l'a mangé ce 1 million d'euros. Il y avait dans leur conscience une obstruction, un empêchement, et ça, je remercie le Seigneur. Ils n'ont pas pu faire soi-disant du bien avec ce 1 million. C'est 1 million d'euros pourri, venu du diable, il n'en faut pas dans les églises. Et je vais plus loin. Il y a des personnes qui aiment être généreuses dans les églises, qui donnent 100 euros, 200 euros, 300 euros par mois, ou 30 euros sinon pas grand-chose, mais qui dans leur conscience aiment l'argent et n'ont pas réellement dégagé leur esprit de ce lien avec l'argent. Pensez à Ananias et Zéphira dans les Actes des Apôtres au chapitre 5. Mais Ananias et Zéphira sont tombés morts. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi cela? Parce que tout simplement, si vous voulez, dans la première église de Christ, à Jérusalem, il fallait que ce soit l'église modèle, l'église type, dirigée par Jacques, le frère non pas de sang, ni de chromosome, mais le frère, puisqu'il était né dans la même famille, de Jésus. Et dans cette église, il y avait quelqu'un qui avait triché. Ananias et Zéphira. Pierre et Jean sont là et ils prient et ils tombent morts. Pourquoi? Il fallait montrer la sévérité de Dieu à l'égard de l'esprit frauduleux, l'esprit de mensonge qui peut venir s'installer dans une église. Une église qui a beaucoup d'argent dans les comptes en banque me pose problème. Il y a tellement de pauvres sur la terre, il y a tellement d'œuvres chrétiennes. Il y a tellement de gens qui ont besoin. Comment se peut-il que certaines églises sont toutes contentes et considèrent que c'est de la sagesse quand elles ont accumulé des bons comptes? Il fait des bons comptes. Et quand elles ont des trésoriers ou trésorières qui se sont satisfaits de leur apparente sagesse. Est-ce que Jésus était riche? Est-ce que les apôtres étaient riches? Lisez Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Je voudrais, chers amis, qu'on ne triche pas avec la vérité biblique et la vérité de l'évangile. Je voudrais qu'on ne triche plus. Luc 12, verset 22. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Ne vous inquiétez pas pour votre église si elle a des sous. C'est pas le but d'une église. La vie est-elle plus que la nourriture? Le corps plus que le vêtement? Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne veulent-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, 43 centimètres, à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas faire la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croisent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Salomon avait accumulé des richesses considérables, et pourtant il avait reçu le don de la sagesse. Et il a fait pourrir ce don. Il a vraiment marché dessus. 1000 femmes. Des cavaleries, des chevaliers, des cavaliers, des chevaux venus d'Égypte. Tout ça, c'est interdit dans la Bible. On ne pouvait pas se confier dans la force de la cavalerie venue d'Égypte. Chers amis, Salomon n'a pas de gloire. Il en a eu sur terre, il n'en a pas devant Jésus. Le lys des champs a plus de gloire pour Jésus. Attention à chacun de nous. Aujourd'hui, si vous voulez, nous avions... Vincent et moi, une rencontre avec un couple qui veut acheter cette maison de prière, ce bâtiment que nous aurions tellement aimé à la frontière, mettre au service de Dieu. Et puis, bon, voilà, rien ne s'est fait, rien n'a pu se faire. Et ces personnes n'ont pas vraiment les possibilités d'avoir l'emprunt et de payer. Nous avons parlé avec l'agence immobilière et eux, et nous essayons de les comprendre. C'est pour une de leurs filles, et ils voudraient créer un élevage d'animaux là et faire du bien à leurs filles, faire quelque chose de bien. Nous avons essayé de comprendre la situation et nous avons laissé un mois de plus pour trouver une solution. Et puis Vincent et moi, mon gendre, nous avons discuté et nous avons déjà une alternative. Nous ne sommes pas habités par la soif de l'argent. Que nous recevions 100 000 euros ou 80 000 euros de ce bâtiment, pour nous, la richesse, c'est Dieu. Puisqu'elle a proposé 100 000 euros, on va voir si elle peut les donner. Mais la richesse, c'est Dieu. Nous avons besoin d'un local. Nous avons besoin d'aménager des pièces pour les écoles, pour l'école ici. Nous avons de grands besoins. Et alors? Puisque Dieu pourvoit pour les oiseaux, qui n'ont ni grenier ni cellier, chers amis, pourquoi aurions-nous peur? Nous faut-il une sagesse humaine où on garde tous les petits sous? Alors voici ce que Dieu dit au verset 29, Luc 12, 29. « Ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Est-ce que nous le croyons vraiment? Est-ce que nous le croyons vraiment? Au pied de la lettre, ce verset-là, mais est-ce que nous croyons que Dieu, quand il me le dit, il dit vrai? Est-ce qu'il transperce mon incrédulité, il transperce mes peurs, mes inquiétudes, mes raisonnements, mes fausses sagesses humaines? Verset 32, « Voici la faiblesse de l'être humain qui se dit disciple de Jésus. Elle l'est mise. Et voici l'encouragement de Jésus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône, faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Ne crains point, petit troupeau. » Luc 12, versets 32 à 34. C'est l'objet d'une méditation extrêmement importante. Comme je circule un peu partout, j'avais appris qu'une église avait besoin pour ses travaux d'énormément d'argent. Pas la nôtre, hein. Bien qu'on ait besoin, mais enfin, peu importe. On n'est pas tourmenté par ça. Et cette église avait besoin de 40 000 ou 50 000 euros, et une autre église avait de l'argent, elle lui a prêté. Cette église qui leur a prêté avait beaucoup d'argent. Elle lui a prêté. Et il fallait qu'elle le rende tous les mois. Est-ce normal? Quand Jésus a dit que ta main droite donne et que ta main gauche ne sache pas, est-ce que c'est normal? Des raisonnements pareils dans des conseils d'administration, des conseils de gestion d'église. C'est pas du tout normal. Si le corps de Christ doit fonctionner comme ça, il est déjà mort d'avance. Parce que nous fonctionnons comme les banquiers et comme les cupides du monde. Il est clairement dit que la libéralité se fait avec joie, avec des intérêts. Chers amis, je vous montre que l'esprit doit être libre, que nous devons être transpercés, pas seulement touchés par la parole. Je vous ai parlé de la radiesthésie, je vous parle de l'argent et le sexe. C'est la même chose. Nous pouvons regarder la télévision, aller sur Internet, en cachette, sur le téléphone, et voir des choses salaces, et que personne ne le sache. J'ai rencontré des chrétiens qui avaient ce problème, de l'addiction au sexe. Et pourtant, ils vont à l'église, ou, pour finir, ils n'y vont plus. Ils se sont cassés le nez, ils ont eu des comportements agressifs envers le pasteur ou envers d'autres, et puis ils quittent. Mais au fin de compte, les films qu'ils regardent créent un lien et leur esprit n'est plus libre. Ils ne savent plus vraiment prier. Ils ne savent plus vraiment prier en profondeur, lire la Bible en profondeur. L'Esprit Saint n'a pas de place. Leur esprit est accaparé par les images de sexe, par les poussées démoniaques impures, par les esprits impurs. Tout chrétien qui a un problème avec cette visitation d'esprit impur dans son âme doit absolument, radicalement, prononcer le nom de Jésus, arrière Satan, et se mettre à genoux et jeûner, prier plusieurs jours s'il le faut. C'est pas le tout d'aller dire à monsieur le pasteur, voulez-vous prier pour que ça passe? J'ai connu une personne comme ça. Cette personne allait voir 4 pasteurs, dont moi, 4 ou 5. Et rien n'a marché. Ensuite, il est tombé dans la folie du jeûne, 25 jours, 26 jours de. Mais il restait toujours dans le sexe. Pourquoi restait-il dans le sexe? Dans l'obsession du sexe? Eh bien, figurez-vous, il y a un autre problème encore, un autre lien sur l'esprit. Il avait été dans une église en Angleterre, on lui a imposé les mains, et ce pasteur a plusieurs femmes. Ce pasteur lit les âmes. Et cette personne avait des maux de tête, fréquemment, et des poussées sexuelles dingues. Et cette personne était quelqu'un qui avait un grand cœur qui pouvait servir Dieu. Mais elle avait été en présence d'un faux docteur, d'un faux serviteur de Dieu, qui imposait les mains et qui faisait tomber les gens par terre. Donc voilà toutes sortes d'addictions. L'argent, le sexe, les faux docteurs, les faux enseignants, les gourous spirituels à étiquette chrétienne. Jamais Jésus n'a fait tomber quelqu'un par terre. Il a toujours dit, lève-toi et marche. Jamais Jésus n'a dit à quelqu'un, roucoule, fais des cris de coq, de bruit, de poule, etc., comme à Toronto. Beaucoup ont été à Toronto, à l'église de Toronto, les manifestations de l'esprit, soi-disant, l'esprit démoniaque. Et puis après, ça s'est répandu à travers le monde. Tous ces liens-là, toute personne qui a été dans les églises ou est tombée par terre, toutes ces personnes qui ont reçu l'imposition de main de mauvais serviteurs de Dieu, ont des liens très forts sur leur esprit. Il est très difficile, pour ma part, dans mon ministère, de les amener à la vraie liberté. Il faudrait qu'ils aient conscience de leur péché. Ils ont péché en allant chercher, en allant boire de l'eau à des sources polluées. Si vous buvez de l'eau polluée, vous êtes empoisonné. Il vous faut l'eau vive. Et prenez Jean, dans son dialogue avec la Samaritaine. Quand Jésus parle à cette Samaritaine, tous ces textes ne sont pas de la blague. On les prend symboliques, allégoriques, etc. Mais c'est bien plus profond que tout cela. C'est la vérité spirituelle. Chapitre 4 de Jean, verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. C'est un homme, il avait besoin de boire aussi. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, qui viens de Jérusalem, me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine, donc une rejetée, Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains, alors je ne te comprends pas. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et t'aurais donné de l'eau vive. L'eau vive, c'est l'eau vivante. C'est l'eau vivante. Or, l'eau vivante, c'est le mot qui représente Christ. Je n'ai besoin que de Christ. Je n'ai pas besoin d'un pasteur gourou. Je n'ai pas besoin d'anciens super sages qui réellement ne vous emmènent pas à Christ. Il faut Christ avant tout. Regardez dans les sept églises d'Apocalypse, on est à la fin du premier siècle, il y a une église qui est réellement en Christ, l'église de Philadelphie. Quelle hécatombe, n'est-ce pas? Il y en a deux autres qui sont dans le martyre, où il y a un certain nombre de personnes qui souffrent pour leur foi, alors que d'autres se conduisent n'importe comment. Pour Éphèse, ça ronronne, ça marche magnifiquement bien, et c'est zéro pour Dieu. Laodicée aussi, Sardes aussi. Mes amis, ce que Jésus a dit à la Samaritaine est profondément nécessaire pour nous. Cette femme va changer d'opinion et va comprendre que Jésus est la source d'eau vive. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, donc du puits de Jacob, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. Donc la femme est ouverte. Cette femme est ouverte à l'œuvre de Dieu. Elle comprend encore rien, mais elle est ouverte. Ça, c'est la clé de tout. Et alors, Jésus lui dit, au verset 23, l'heure est venue, elle vient, dans sa partie prison, c'est actif, elle est venante. Elle est déjà venue, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, ça veut dire que notre faculté d'esprit doit être menée par la vérité, et non pas par l'égarement, pas par des esprits impurs, par des esprits de cupidité, par des esprits de médium, par des esprits de gourou spirituel. Il faut être libéré dans l'esprit. Chers amis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il faut que notre esprit soit libre, dégagé, transpercé. Comme Hébreux chapitre 4, l'épée qui rentre, qui sépare entre les sentiments et l'esprit, l'âme. Verset 24, Dieu est esprit, donc esprit saint, divin, créateur, directeur de la création. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit en vérité, pour que l'esprit saint les conduise. Il faut, c'est pas mis, il faudrait. Alors, chers amis, quand ce petit garçon de 11 ans qui demande à être formé pour le baptême, pour Pâques, et qui veut être pasteur un jour, et qui déjà amène une petite fille d'un an de moins qu'elle, à la question, est-ce que tu es touché ou est-ce que tu es transpercé? Voilà une âme qui sait de quoi il parle. Et je voudrais vous poser la question. Quand Jésus a parlé, il a dit, laissez venir à moi les petits enfants. C'est pas des enfants gaga. C'est pas des enfants avec l'esprit foufou. Ce sont des enfants de ce genre-là. C'est des enfants réceptifs à l'autorité de l'Esprit Saint et qui ont compris la vérité et qui aiment la vérité plus que l'égarement de l'humain. Transpercé, oui. Touché, c'est pas suffisant. Touché, c'est pas encore arrivé. Quand j'ai monté une échelle, j'ai monté un échelon ou deux, je suis pas au-dessus de l'échelle. Quand j'ai monté un escalier, j'ai passé une marche ou deux, je ne suis pas encore à la 11e marche, je ne suis pas à l'étage d'au-dessus. Et être touché, ce n'est pas être sauvé. Transpercé, oui. Crucifié en Christ. Galates, chapitre 2. Oh, à quel point, mes amis, je voudrais un réveil spirituel partout. Partout. Partout, mes amis, partout. Que nos pays se réveillent, que nos églises soient absolument nourries de la parole divine, dans son autorité. Galates, chapitre 2. Verset 20. J'ai été crucifié en Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la condition humaine, je vis dans la foi au Fils de Dieu, c'est-à-dire l'adhésion complète au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Alors comprenez bien, si quelqu'un vit dans la foi, et il est sur l'Internet avec les jeux, etc., s'il est sur Internet à minuit, quand la femme dort ou le mari dort, dans des programmes salaces, hein, ou si pendant la journée, l'interruption du travail, il est sur des programmes salaces, à l'insu du conjoint, ou à deux même, dans la chambre, couché, avec une TV, des programmes salaces, alors qu'on va à l'église, alors qu'on va faire une petite prière de temps en temps, eh bien, il est clair, chers amis, que je ne peux pas dire que j'ai accepté la grâce de Dieu. Je me moque de la grâce de Dieu. Oui. Ici, Paul dit, dans Galates 2, 21, je ne rejette pas la grâce de Dieu. La grâce, le trône de grâce, je vous en ai parlé il y a quelques jours. Oui, approchons-nous du trône de grâce. Mais il est certain, approchons-nous du trône de grâce au travail, au WC, au jardin, en auto, dans les rêves, dans les prières, dans les nuits, comme dans les journées. Approchons-nous du trône de la grâce. Ne nous laissons pas gagner dans notre esprit, dans ce qui est notre esprit, par le mauvais esprit, l'esprit du menteur, du tueur, du violeur de ce monde, de l'imposteur. Ne nous laissons pas conduire par ces ruses. Avez-vous déjà discerné les ruses de Satan dans votre vie? Faites attention, mes amis, il est fort. Mais si vous ne rejetez pas la grâce de Christ, l'homme fort est en vous et Satan ne peut pas rentrer. Voilà, c'est avec amour, avec joie que je vous ai parlé de tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire sur la nouvelle naissance, il y a beaucoup de choses à dire sur la régénération. Mais ce que j'ai dit là, c'est le point de départ. Si cela est accepté, la régénération, la nouvelle naissance est réellement un élan. Vous êtes emporté par le souffle divin. Car l'Esprit Saint, comme Jésus a dit à Nicodème, il souffle. On ne sait pas d'où il vient. De gauche, droite, devant, derrière. Je vous lis le texte parce que c'est formidable. J'en termine aujourd'hui. Parce que je voudrais bien être en communication avec le Pakistan. Donc, Jean, Nicodème, chapitre 2 ou 3. 3. Chapitre 3, verset 3. Jésus répondit à Nicodème, en vérité, amin, amin, c'est un oracle divin. Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Quand on est transpercé par la parole divine, quand on est transformé par la puissance de Christ et qu'on se laisse faire entièrement, qu'on ne rejette pas la grâce, à ce moment-là, on voit le royaume de Dieu à l'œuvre en nous. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, donc la parole divine, l'eau vive, et de l'Esprit Saint, c'est la même chose. L'Esprit Saint est allié à l'œuvre de Christ. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de l'humain, de la chair, est humain. Il va à l'échec. Il est mort et séparé de Dieu. » Et ce qui est né de l'Esprit Saint est esprit. Il est vivant, il est renouvelé, il est débarrassé des liens, de l'esclavage, de toutes les ruses de Satan, de toutes les ruses de divers péchés, de diverses convoitises. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Donc il s'agit pneuma, le Saint-Esprit. La roi en hébreu. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Tu entends les paroles de Jésus. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ben, pauvre Nicodème, c'est vrai, il n'était pas loin. Hein? Tu ne sais pas d'où je viens, tu ne sais pas Jésus de Nazareth, est-ce qu'il est fils de Dieu ou pas, mais après, oui. Mais ce qu'il y a, il y en a ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voilà. Chers amis, nous sommes tous des Nicodèmes au départ. Mais il faut tous être transformés. La Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit, est-elle venue dans votre vie? La mort de Christ sur la croix est-elle venue dans votre vie? La résurrection de Christ est-elle venue dans votre vie? La Pâque de Christ est-elle votre pain de tous les jours? Amen. Je vous invite à être courageux. Pour être chrétien, il faut être courageux. Droit de cœur, honnête et persévérant. Sinon, On s'égare vite et Satan est très rusé. Dieu vous bénisse. C'est avec amour, avec prière. Prière, je prie beaucoup pour vous, chers amis. À bientôt. Nous sommes mercredi à vendredi, 18h. 18h15, peut-être. Merci pour les petits bisous, pour tous les petits signes. Hein. Ça m'encourage. Et évidemment, priez pour notre école, priez pour Saïd au Pakistan. Des fois, je ne sais plus ce que je peux faire pour lui. C'est difficile. Et déjà pour l'école ici, pour notre église. Mais Dieu est grand. Dieu est souverain. Dieu est le maître. Dieu est riche en amour, en miséricorde, en miracle, en signe puissant. Lisez le psaume 104. Vous verrez des signes puissants de Dieu dans le psaume 104. Bonne soirée.